Chapitre 13. Comment Chico, entré dans l'abbaye Sainte-Geneviève, y vit et entendit des choses fort dangereuses. Chico, en passant le froc du moine, avait pris une précaution importante, c'était de doubler l'épaisseur de ses épaules par l'habile disposition de son manteau et des autres vêtements que la robe du moine rendait inutile. Il avait même couleur de barbe que Gorenflot, et quoique l'un fût né sur les bords de la Saône et l'autre sur ceux de la Garonne, il s'était amusé à contrefaire tant de fois la voix de son ami qu'il en était arrivé à l'imiter, à s'y méprendre. Or, chacun sait que la barbe et la voix sont les deux seules choses qui sortent des profondeurs d'un capuchon de moine. La porte allait se fermer quand Chico arriva, et le frère portier n'attendait plus que quelques retardataires. Le Gascon exhiba son béarnais percé au cœur, il fut admis sans opposition. Deux moines le précédaient, il les suivit et pénétra avec eux dans la chapelle du couvent, qu'il connaissait pour y avoir souvent accompagné le roi. Le roi avait toujours accordé une protection particulière à l'abbaye Sainte-Geneviève. La chapelle était de construction romane, c'est-à-dire qu'elle datait du XIe siècle et que, comme toutes les chapelles de cette époque, le chœur recouvrait une crypte ou église souterraine. Il en résultait que le chœur était plus élevé que la nef de 8 ou 10 pieds, que l'on montait dans le chœur par 2 escaliers latéraux, tandis qu'une porte de fer s'ouvrant entre les 2 escaliers conduisait de la nef à la crypte, dans laquelle, une fois cette porte ouverte, on descendait par autant de degrés qu'il y en avait aux escaliers du chœur. Dans ce chœur qui dominait toute l'église de chaque côté de l'autel, que surmontait un tableau de Sainte-Geneviève, attribué à Maître Rosso, étaient les statues de Clovis et Clotilde. 3 lampes seulement éclairaient la chapelle. L'une suspendue au milieu du chœur, les 2 autres disposées à égale distance dans la nef. Cette lumière à peine suffisante donnait une solennité plus grande à cette église, dont elle doublait les proportions, puisque l'imagination pouvait étendre à l'infini les parties dans l'ombre. Chico eut d'abord besoin d'accoutumer ses yeux à l'obscurité. Pour les exercer, il s'amusa à compter les moines. Il y en avait 120 dans la nef et 12 dans le chœur, en tout 132. Les 12 moines du chœur étaient rangés sur une seule ligne en devant de l'autel et semblaient défendre le tabernacle comme une rangée de sentinelles. Chico vit avec plaisir qu'il n'était pas le dernier à se joindre à ceux que le frère Gorenflot appelait les frères de l'Union. Derrière lui entrèrent encore 3 moines, vêtus d'amples robes grises, lesquels allèrent se placer en avant de cette ligne que nous avons comparée à une rangée de sentinelles. Un petit moinillon que n'avait point aperçu alors Chico et qui était sans doute quelque enfant de cœur du couvent fit le tour de la chapelle pour voir si tout le monde était bien à son poste. Puis, l'inspection finie, il alla parler à l'un des 3 moines arrivés les derniers qui se trouvaient au milieu. « Nous sommes 136, » dit le moine d'une voix forte, « c'est le compte de Dieu. » Aussitôt, les 120 moines agenouillés dans la nef se levèrent et prirent place sur des chaises ou dans les stalles. Bientôt un grand bruit de gonds et de verrous annonça que les portes massives se fermaient. Ce ne fut pas sans un certain battement de cœur que Chico, tout brave qu'il était, entendit le grincement des serrures. Pour se donner le temps de se remettre, il alla s'asseoir à l'ombre de la chaire, d'où ses yeux se portaient tout naturellement sur les 3 moines qui paraissaient les personnages principaux de cette réunion. On leur avait apporté des fauteuils et ils s'étaient assis, pareil à 3 juges. Derrière eux, les 12 moines du chœur se tenaient debout. Quand le tumulte occasionné par la fermeture des portes et par le changement d'attitude des assistants eut cessé, une petite cloche tinta 3 fois. C'était sans doute le signal du silence, car les chutes prolongées se firent entendre pendant les 2 premiers coups, et au 3e, tout bruit cessa. « Frère Monsoreau, dit le même moine qui avait déjà parlé, quelle nouvelle apportez-vous à l'union de la province d'Anjou ?» 2 choses firent dresser l'oreille à Chico. La première, cette voix au timbre si accentué qu'elle semblait bien plus faite pour sortir sur un champ de bataille de la visière d'un casque que dans une église du capuchon d'un moine. La seconde, ce nom de frère Monsoreau, connu depuis quelques jours seulement à la cour, où, comme nous l'avons dit, il avait produit une certaine sensation. Un moine de haute taille, et dont la robe formait des plis anguleux, traversa une partie de l'assemblée, et d'un pas ferme et hardi, monta dans la chaire. Chico essaya de voir son visage, c'était chose impossible. « Bon, dit-il, et si l'on ne voit pas le visage des autres, du moins les autres ne verront pas le mien. » « Mes frères, dit alors une voix qu'à ses premiers accents, Chico reconnut pour celle du grand veneur, les nouvelles de la province d'Anjou ne sont point satisfaisantes, non pas que nous y manquions de sympathie, mais parce que nous y manquons de représentants. La propagation de l'union dans cette province avait été confiée au baron de Méridor, mais ce vieillard, désespéré de la mort récente de sa fille, a, dans sa douleur, négligé les affaires de la Sainte Ligue. Jusqu'à ce qu'il soit consolé de la perte qu'il a faite, nous ne pouvons compter sur lui. Quant à moi, j'apporte 3 nouvelles adhésions à l'association, et selon le règlement, je les ai déposées dans le tronc du couvent. Le conseil jugera si ces 3 nouveaux frères, dont je réponds d'ailleurs comme de moi-même, doivent être admis à faire partie de la Sainte Union. » Un murmure d'approbation circula dans les rangs des moines, et frère Montsoreau avait regagné sa place, que ce bruit n'était pas encore éteint. « Frère La Hurière, reprit le même moine qui paraissait destiné à faire l'appel des fidèles selon son caprice, « dites-nous ce que vous avez fait dans la ville de Paris. » Un homme au capuchon rabattu parut à son tour dans la chaire que venait de laisser vacante M. de Montsoreau. « Mes frères, dit-il, vous savez tous que si je suis dévot à la foi catholique et si j'ai donné des preuves de cette dévotion pendant le grand jour où elle a triomphé. Oui, mes frères, dès cette époque, et je m'en glorifie, j'étais un des fidèles de notre grand duc Henri de Guise, et c'est de la bouche même de Monsieur de Bem, à qui Dieu accorde toutes ses bénédictions, que j'ai reçu les ordres qu'il a daigné me donner et que j'ai suivi, à ce point que j'ai voulu tuer mes propres locataires. Or, ce dévouement à cette sainte cause m'a fait nommer cartonnier, et j'ose dire que c'est une heureuse circonstance pour la religion. J'ai pu ainsi noter tous les hérétiques du quartier Saint-Germain-l'Auxerrois, où je tiens toujours, rue de l'Arbre Sec, l'hôtel de la Belle Étoile, à votre service, mes frères, et les ayant notés, les désignés à nos amis. Certes, je n'ai plus soif du sang des Huguenots comme autrefois, mais je ne saurais me dissimuler le but véritable de la Sainte Union que nous sommes en train de fonder. Écoutons, se dit Chico, ce La Hurière, si je m'en souviens bien, est un furieux tueur d'hérétiques, et il doit en savoir long sur la Ligue, si l'on mesure chez messieurs les ligueurs la confiance sur le mérite. Parlez, parlez, dirent plusieurs voix. La Hurière, qui trouvait l'occasion de déployer ses facultés d'orateur, quoiqu'il l'ait cruiné en lui, se recueillit un instant, toussa, et reprit. Si je ne me trompe, mes frères, l'extinction des hérésies particulières n'est pas seulement ce qui nous préoccupe. Il faut que les bons Français soient assurés de ne jamais rencontrer d'hérétiques parmi les princes appelés à les gouverner. Or, mes frères, où en sommes-nous? François II, qui promettait d'être un zélé, est mort sans enfant. Charles IX, qui était un zélé, est mort sans enfant. Le roi Henri III, dont ce n'est point à moi de rechercher les croyances et de qualifier les actions, mourra probablement sans enfant. Restera donc le duc d'Anjou, qui non seulement n'a pas d'enfant non plus, mais qui encore paraît tiède pour la Sainte Ligue. Ici, plusieurs voix interrompirent l'orateur, parmi lesquelles celle du grand veneur. « Pourquoi tiède ?» dit la voix. « Et qui vous fait porter cette accusation contre le prince ?» Je dis tiède parce qu'il n'a pas encore donné son adhésion à la Ligue, quoique l'illustre frère qui vient de m'interpeller l'ait positivement promise en son nom. « Qui vous dit qu'il ne l'ait point donné ?» reprit la voix, « puisqu'il y a des adhésions nouvelles. Vous n'avez le droit, ce me semble, de soupçonner personne tant que le dépouillement ne sera point fait. « C'est vrai, dit la Hurière, j'attendrai donc encore. Mais après le duc d'Anjou, qui est mortel et qui n'a point d'enfant, remarquez que l'on meurt jeune dans la famille, à qui reviendra la couronne? Au plus farouche huguenot qu'on puisse imaginer, à un renégat, à un relapse, à un Nabuchodonosor. » Ici, au milieu de murmures, ce furent des applaudissements frénétiques qui interrompirent la Hurière. Ah, Henri de Béarn, enfin, contre lequel cette association est surtout faite. Ah, Henri de Béarn, que l'on croit souvent à Pau ou à Tarbes occupé à ses amours, et que l'on rencontre souvent à Paris. À Paris, s'écrièrent plusieurs voix. À Paris, c'est impossible. Il y est venu, s'écria la Hurière. Il s'y trouvait la nuit où Madame de Sauve a été assassinée. Il y est peut-être encore en ce moment. À mort le Béarnais, crièrent plusieurs voix. Oui, sans doute, à mort, cria la Hurière. Et s'il vient par hasard à loger à la Belle Étoile, je réponds bien de lui. Mais il ne viendra pas. On ne prend pas un renard deux fois à la même trouée. Il ira loger ailleurs, chez quelque ami, car il a des amis, l'hérétique. Eh bien, c'est le nombre de ses amis qu'il faut diminuer ou faire connaître. Notre union est sainte, notre ligue est loyale, consacrée, bénie, encouragée par notre Saint-Père le Pape Grégoire III. Je demande donc qu'on n'en fasse pas plus longtemps mystère, que des listes soient remises aux cartonniers et aux disonniers, qu'ils aillent avec ces listes dans les maisons, inviter les bons citoyens à signer. Ceux qui signeront seront nos amis, ceux qui refuseront de signer seront nos ennemis. Et l'occasion se présentant d'une seconde Saint-Barthélemy, qui semble aux vrais fidèles devenir de plus en plus urgente, eh bien, nous ferions ce que nous avons déjà fait dans la première. Nous épargnerions à Dieu la fatigue de séparer lui-même les bons des méchants. À cette péroraison, des tonnerres d'applaudissements éclatèrent. Puis, quand ils se furent calmés avec cette lenteur et ce tumulte qui prouvent que les acclamations ne sont qu'interrompues, la voix grave du moine, qui avait déjà parlé plusieurs fois, se fit entendre et dit « La proposition du frère La Hurière, que la Sainte Union remercie de son zèle, est prise en considération. Elle sera débattue en conseil ultérieur. » Les applaudissements redoublèrent. La Hurière s'inclina plusieurs fois pour remercier l'assemblée et, descendant les marches de la chaire, regagna sa place, courbée sous l'immensité de son triomphe. « Ah !» se dit Chicot, « je commence à voir clair dans tout ceci. On a moins de confiance à l'endroit de la foi catholique dans mon fils Henri que dans son frère Charles IX et Monsieur de Guise. C'est probable, puisque le Mayenne est fourré dans tout ceci. Messieurs de Guise veulent former dans l'État une petite société à part dont ils seront les maîtres. » Ainsi, le grand Henri, qui est général, tiendra les armées, aussi le gros Mayenne tiendra la bourgeoisie, aussi l'illustre cardinal tiendra l'église, et, un beau matin, mon fils Henri s'apercevra qu'il ne tient rien du tout que son chapelet, avec lequel on l'invitera poliment à se retirer dans quelque monastère. Puissamment raisonné. Ah bien, oui, mais reste le duc d'Anjou, diable, le duc d'Anjou, qu'en fera-t-on? « Frère Goranflot, dit la voix du moine qui avait déjà appelé le grand veneur et la Hurière, soit qu'il fût préoccupé des réflexions que nous venons de transmettre à nos lecteurs, soit qu'il ne fût pas encore habitué de répondre au nom qu'il avait pris. Cependant, avec le froc du quêteur, Chicot ne répondit pas. « Frère Goranflot, reprit la voix du moinillon, voix si claire et si aiguë que Chicot tressaillit. « Oh !» murmura-t-il, on dirait d'une voix de femme qui appelle frère Goranflot. Est-ce que dans cette honorable assemblée, non seulement les rangs, mais encore les sexes sont confondus ?« Frère Goranflot !» répéta la même voix féminine, « n'êtes-vous donc point ici ?»« Ah, mais se dit tout bas Chicot, frère Goranflot, c'est moi, allons !» Puis, tout haut, « si fait, dit-il, en asillant comme le moine, me voilà, j'étais plongé dans les profondes méditations qu'avait fait naître en moi le discours de frère La Hurière, et je n'avais pas entendu que l'on m'avait appelé. » Quelques murmures d'approbation rétrospective en faveur de La Hurière, dont les paroles vibraient encore dans tous les cœurs, se firent entendre et donnèrent à Chicot le temps de se préparer. Chicot pouvait, dira-t-on, ne pas répondre au nom de Goranflot, puisque nul ne levait son capuchon. Mais les assistants étaient comptés, on se le rappelle. Donc, inspection faite des visages, et cette inspection eût été provoquée par l'absence d'un homme censé présent, la fraude eût été découverte, et alors la position de Chicot devenait grave. Chicot n'hésita donc point un instant. Il se leva, fit le gros dos, monta les degrés de la chaire, et tout en les montant, rabattit son capuchon le plus possible. Mes frères, dit-il, en imitant à s'y méprendre la voix du moine, je suis le frère quêteur de ce couvent, et vous savez que cette charge me donne le droit d'entrer dans les demeures de tous. J'use donc de ce droit pour le bien du Seigneur. Mes frères, continua-t-il, en se rappelant l'exorde de Gorenflot, si inopinément interrompu par le sommeil qui, à cette heure, en vertu du liquide absorbé, étreignait encore en maître le vrai Gorenflot, mes frères, c'est un beau jour pour la foi que celui qui nous réunit. Parlons franc, mes frères, puisque nous voilà dans la maison du Seigneur. Qu'est-ce que le royaume de France? Un corps. Saint Augustin l'a dit, omnis civitas corpus est, toute cité est un corps. Quelle est la condition du salut d'un corps? La bonne santé. Comment conserve-t-on la santé du corps? En pratiquant de prudentes saignées quand il y a excès de force. Or, il est évident que les ennemis de la religion catholique sont trop forts, puisque nous les redoutons. Il faut donc saigner encore une fois ce grand corps qu'on appelle la société. C'est ce que me répètent tous les jours les fidèles dont j'apporte au couvent les œufs, les jambons et l'argent. Cette première partie du discours de Chicot fit une vive impression sur l'auditoire. Chicot laissa au murmure d'approbation qu'il venait de soulever le temps de se produire, puis de s'apaiser, et il reprit. « On m'objectera peut-être que l'Église abhorre le sang. Ecclesia aborrait à sanguiner, continua-t-il. Mais notez bien ceci, mes chers frères, le théologien ne dit pas de quel sang l'Église a horreur. » Et je parierais un bœuf contre un œuf que ce n'est point en tout cas du sang des hérétiques qu'il a voulu parler. En effet, fons malus corruptorum sanguis, hereticorum autem passimus. Et puis, encore un argument, mes frères. J'ai dit l'Église, mais nous autres, nous ne sommes pas seulement l'Église. Frère Monsoreau, qui a si éloquemment parlé tout à l'heure, j'en suis certain, son couteau de grand veneur à la ceinture. Frère La Hurière manie la broche avec facilité. Verou agreste, letiferum tamen instrumentum. Moi-même qui vous parle, mes frères, moi, Jean Nepomucène Gorenflot, j'ai porté le mousquet en Champagne, et j'ai brûlé des huguenots dans leur prêche. Ça aurait été pour moi un honneur suffisant, et j'aurais mon paradis tout fait, je le croyais du moins, quand tout à coup on a soulevé dans ma conscience un scrupule. Les huguenots, avant d'être brûlés, avaient été un peu violés. Il paraît que cela gâtait la belle action, à ce que m'a dit mon directeur du moins. Aussi me suis-je hâté d'entrer en religion, et pour effacer la souillure que les hérétiques avaient laissée en moi, j'ai fait à partir de ce moment vœu de passer le reste de mes jours dans l'abstinence et à ne plus fréquenter que de bonnes catholiques. Cette seconde partie du discours de l'orateur n'eut pas moins de succès que la première, et chacun parut admirer les moyens dont s'était servi le Seigneur pour opérer la conversion de frère Gorenflot. Aussi quelques applaudissements se mêlèrent-ils au murmure d'approbation. Chicot salua modestement l'assemblée. Il nous reste, reprit Chicot, à parler des chefs que nous nous sommes donnés, et sur lesquels il me semble, à moi, pauvre Génovéfain indigne, qu'il y a quelque chose à dire. Certes, il est beau et surtout prudent de s'introduire la nuit sous un froc pour entendre prêcher frère Gorenflot, mais il me semble que le devoir des grands mandataires ne doit pas se borner là. Une si grande prudence prête à rire à ces damnés huguenots qui, après tout, sont des enragés lorsqu'il s'agit d'estocade. Je demande donc que nous ayons une allure plus digne de gens de cœur que nous sommes, ou plutôt que nous voulons paraître. Qu'est-ce que nous souhaitons? L'extinction de l'hérésie. Eh bien, mais cela peut se crier sur les toits, ce me semble. Que ne marchons-nous pas par les rues de Paris comme une sainte procession, faisant montre de notre belle tenue et de nos bonnes pertuisanes, mais non pas comme des larrons nocturnes qui regardent à chaque carrefour si le guet arrive. Mais quel est l'homme qui donnera l'exemple, dites-vous? Eh bien, ce sera moi, Jacques Nepomucène Gorenflot, moi, frère indigne de l'ordre de Sainte-Geneviève, humble et pauvre quêteur de ce couvent. Ce sera moi à qui la cuirasse sur le dos, la salade sur la tête et le mousquet sur l'épaule marcherai, s'il le faut, à la tête des bons catholiques qui me voudront suivre, et cela, je le ferai, ne fût-ce que pour faire rougir des chefs qui se cachent, comme si, en défendant l'Église, il s'agissait de soutenir quelques ribauds en querelle. » La péroraison de Chicot, qui correspondait au sentiment de beaucoup des membres de la Ligue, qui ne voyaient pas la nécessité d'aller au but par d'autres routes que par le chemin dont la Saint-Barthélemy, 6 ans auparavant, avait ouvert la barrière, et que par conséquent les lenteurs des chefs désespérés, alluma le feu sacré dans tous les cœurs, et à part 3 capuchons qui demeurèrent silencieux, l'assemblée se mit à crier d'une seule voix « Vive la messe, Noël, au brave frère Grandflot, la procession, la procession !» L'enthousiasme était d'autant plus vivement excité que c'était la première fois que le zèle du digne frère se produisait sous un pareil jour. Jusque-là, ses amis les plus intimes l'avaient rangé au nombre des zélés, sans doute, mais des zélés que le sentiment de la conservation de soi-même retenait dans les bornes de la prudence. Point du tout de cette demi-teinte dans laquelle il était resté, frère Goranflot s'élançait tout à coup armé en guerre dans le jour éclatant de l'arène. C'était une grande surprise, qui amenait une grande réhabilitation, et quelques-uns, dans leur admiration, d'autant plus grande qu'elle était plus inattendue, mettaient dans leur esprit frère Goranflot, qui avait prêché la première procession à la hauteur de Pierre l'Ermite, qui avait prêché la première croisade. Malheureusement, ou heureusement pour celui qui avait produit cette exaltation, ce n'était pas le plan des chefs de lui laisser prendre son cours. Un des 3 moines silencieux se pencha à l'oreille du moinillon et la voix flûtée de l'enfant retentit aussitôt sous les voûtes, criant 3 fois « Mes frères, il est l'heure de la retraite, la séance est levée !» Les moines se levèrent, bourdonnant, et tout en se promettant de demander d'une voix unanime à la prochaine séance la procession proposée par le brave frère Goranflot, prirent lentement le chemin de la porte. Beaucoup s'étaient approchés de la chaire pour féliciter le frère quêteur à la descente de cette tribune, du haut de laquelle il avait eu un si grand succès. Mais Chicot, réfléchissant qu'entendu de près sa voix, de laquelle il n'avait jamais pu extraire un petit accent gascon, pouvait être reconnu, que vu de près son corps, qui, dans la ligne verticale, présentait 6 ou 8 bons pouces de plus que le frère Goranflot, lequel avait sans doute grandi dans l'esprit de ses auditeurs, mais moralement surtout, pouvait exciter quelque étonnement. Chicot, disons-nous, s'était jeté à genoux et paraissait, comme Samuel, abîmé dans une conversation en tête à tête avec le Seigneur. On respecta donc son extase et chacun s'achemina vers la sortie avec une agitation qui, sous le capuchon dans les plis duquel il avait ménagé des ouvertures pour ses yeux, réjouissait fort Chicot. Cependant, le but de Chicot était à peu près manqué. Ce qui lui avait fait quitter le roi Henri III sans lui demander congé, c'était la vue du duc de Mayenne. Ce qui l'avait fait revenir à Paris, c'était la vue de Nicolas David. Chicot, comme nous l'avons dit, avait bien fait double vœu de vengeance, mais il était bien petit compagnon pour s'attaquer à un prince de la maison de Lorraine, où, pour le faire impunément, il lui fallait attendre longuement l'occasion. Il n'en était pas de même pour Nicolas David, qui n'était qu'un simple avocat normand, matois, fort retors, il est vrai, qui avait été soldat avant d'être avocat et maître d'armes tandis qu'il était soldat, mais sans être maître d'armes, Chicot avait la prétention de jouer assez proprement de la rapière. La grande question était donc pour lui de rejoindre son ennemi, et une fois rejoint, Chicot, comme les anciens preux, mettrait sa vie sous la garde de son bon droit et de son épée. Chicot regardait donc tous les moines s'en aller les uns après les autres, afin, sous ses frocs et ses capuchons, de reconnaître, s'il était possible, la taille longue et menue de maître Nicolas, quand il s'aperçut tout à coup qu'en sortant, chaque moine était soumis à un examen pareil à celui qu'il avait subi en entrant, et tirant de sa poche un signe quelconque, n'obtenait son exéate que lorsque le frère portier le lui avait donné sur l'inspection de ce signe. Chicot crut d'abord s'être trompé et resta un instant dans le doute, Mais ce doute fut bientôt changé en certitude qui fit poindre une sueur froide à la racine des cheveux de Chicot. Le frère Gorenflot lui avait bien indiqué le signe à l'aide duquel on pouvait entrer, mais il avait oublié de lui montrer le signe à l'aide duquel on pouvait sortir. Chicot se hâta de descendre de sa chaire et de se mêler au dernier moine afin de reconnaître, s'il était possible, le signe à l'aide duquel on pouvait regagner la rue et de se procurer ce signe s'il était encore temps. En effet, après avoir rejoint les retardataires, après avoir allongé la tête par-dessus toutes les têtes, Chicot reconnut que le signe de sortie était un denier taillé en étoile. Notre Gascon avait bon nombre de deniers dans sa poche, mais malheureusement, pas un n'avait cette taille particulière, d'autant plus inusitée qu'elle exilait pour jamais cette pièce ainsi mutilée de la circulation monétaire. Chicot envisagea la situation d'un coup d'œil. Arrivé à la porte, ne pouvant pas produire son denier étoilé, il était reconnu comme un faux frère. Et puis, comme tout naturellement, les investigations ne se borneraient point là pour maître Chicot, fou du roi, charge qui lui donnait beaucoup de privilèges au Louvre et dans les autres châteaux, mais qui, dans l'abbaye de Sainte-Geneviève, et surtout en des circonstances pareilles, perdait beaucoup de son prestige. Chicot était pris dans un traquenard. Il gagna l'ombre d'un pilier et se blottit dans l'angle d'un confessionnal, adossé à l'angle de ce pilier. Et puis, se dit Chicot, en me perdant, je perds la cause de mon imbécile de souverain, que j'ai la niaiserie d'aimer, tout en lui disant des injures. Ah, sans doute, il eût mieux valu retourner à l'hôtellerie La Corne d'Abondance et rejoindre frère Gorenflot, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Et tout en se parlant ainsi à lui-même, c'est-à-dire à l'interlocuteur le plus intéressé à ne pas dire un mot de ce qu'il disait, Chicot s'effaçait de son mieux entre l'angle de son confessionnal et les moulures de son pilier. Alors il entendit l'enfant de chœur crier du parvis « Y a-t-il plus personne? On va fermer les portes! » Aucune voix ne répondit. Chicot allongea le cou et vit effectivement la chapelle vide, à l'exception des trois moines, plus enfroqués que jamais, lesquels se tenaient assis dans les stalles qu'on leur avait apportés au milieu du chœur. « Bon, dit Chicot, pourvu qu'on ne ferme pas les fenêtres, c'est tout ce que je demande. « Faisons la visite, dit l'enfant de chœur au frère portier. « Ventre de biche, dit Chicot, voilà un moignon que je porte dans mon cœur. » Le frère portier alluma un cierge et, suivi de l'enfant de chœur, commença à faire le tour de l'église. Il n'y avait pas un instant à perdre. Le frère portier et son cierge devaient passer à 4 pas de Chicot, qui ne pouvait manquer d'être découvert. Chicot tourna habilement autour du pilier, demeurant dans l'ombre à mesure que l'ombre tournait, et, ouvrant le confessionnal fermé au loquet seulement, il se glissa dans la boîte oblongue dont il tira la porte sur lui après s'être assis dans la stalle. Le frère portier et le moignon passèrent à 4 pas de là, et à travers le grillage sculpté, Chicot vit se refléter sur sa robe la lumière du cierge qui les éclairait. Que diable, se dit Chicot, ce frère portier, ce moignon et ces trois moines ne vont pas rester éternellement dans l'église. Quand ils seront sortis, j'entasserai les chaises sur les bancs, Pélion sur Ronsard, comme dit monsieur Ronsard, et je sortirai par la fenêtre. Ah oui, par la fenêtre, reprit Chicot, se répondant à lui-même, mais quand je serai sorti par la fenêtre, je me trouverai dans la cour, et la cour n'est point la rue. Je crois que mieux vaut encore passer la nuit dans le confessionnal. Non, la robe de Gorenflot est chaude, ce sera une nuit moins païenne que celle que j'eusse passée ailleurs, et j'y compte pour mon salut. Éteins les lampes, dit l'enfant de chœur, que l'on voit bien du dehors que le conciliabule est fini. Le portier, à l'aide d'un immense éteignoir, étouffa aussitôt la première des 2 lampes de la nef qui se trouva plongée ainsi dans une funèbre obscurité, puis celle du chœur. L'église ne fut plus alors éclairée que par le rayon blafard qu'une lune d'hiver faisait glisser à grand-peine à travers les vitraux coloriés. Puis, après la lumière, le bruit s'éteignit. La cloche sonna 12 fois. Ventre de biche, dit Chicot, à minuit dans une église. S'il était à ma place, mon fils Henriquet aurait une belle peur. Heureusement que nous sommes d'une complexion moins timide. Allons, Chico, mon ami, bonsoir et bonne nuit. » Et après s'être adressé ce souhait à lui-même, Chico s'accommoda du mieux qu'il put dans son confessionnal, poussa le petit verrou intérieur afin d'être chez lui et ferma les yeux. Il y avait 10 minutes à peu près que ses paupières s'étaient jointes et que son esprit, troublé par les premières vapeurs du sommeil, voyait flotter dans ce vague mystérieux qui forme le crépuscule de la pensée une foule de figures indécises, quand un coup éclatant, frappé sur un timbre de cuivre, vibra dans l'église et alla se perdre en frémissant dans ses profondeurs. « Ouais, » fit Chico en rouvrant les yeux et en dressant les oreilles, « que veut dire ceci ?» En même temps, la lampe du cœur se ralluma, bleuâtre, et de son premier reflet éclaira les 3 mêmes moines assis toujours les uns près des autres, à la même place et dans la même immobilité. Et Chico ne fut point exempt d'une certaine crainte superstitieuse. Tout brave qu'il était, notre Gascon était de son époque, et son époque était celle des traditions fantastiques et des légendes terribles. Il fit tout doucement le signe de la croix en murmurant tout bas « Va des rétro, Satanas !» Mais comme les lumières ne s'éteignaient point au signe de notre rédemption, ce qu'elles n'eussent point manqué de faire si elles eussent été des lueurs infernales, comme les 3 moines restèrent à leur place malgré le « va des rétro », le Gascon commença de croire qu'il avait affaire à des lumières naturelles et sinon à de vrais moines, du moins à des personnages en chair et en os. Chico ne s'en secoua pas moins, en proie à ce frisson de l'homme qui s'éveille combiné avec le tressaillement de l'homme qui a peur. En ce moment, une des dalles du cœur se leva lentement et resta dressée sur sa base étroite. Un capuchon gris se montra au bord de l'ouverture noire, puis un moine tout entier apparut qui prit pied sur le marbre tandis que la dalle se refermait doucement derrière lui. À cette vue, Chico oublia l'épreuve qu'il venait de tenter et cessa d'avoir confiance dans la conjuration qu'il croyait décisive. Ses cheveux se dressèrent sur sa tête et il se figura un instant que tous les prieurs, abbés et doyens de Sainte-Geneviève, depuis Opta, mort en 533, jusqu'à Pierre Boudin, le prédécesseur du supérieur actuel, ressuscités de leur tombeau, situé dans la crypte où dormaient autrefois les reliques de Sainte-Geneviève, et allaient, selon l'exemple qui leur était donné, soulever de leur crâne osseux les dalles du cœur. Mais ce doute ne fut pas long. « Frère Monsoreau, dit un des 3 moines du cœur à celui qui venait d'apparaître d'une si étrange manière, la personne que nous attendons est arrivée. « Oui, mes seigneurs, répondit celui auquel la question était adressée, et elle l'attend. Ouvrez-lui la porte et qu'elle vienne à nous. » « Bon, dit Chico, il paraît que la comédie avait 2 actes et que je n'avais encore vu jouer que le premier. 2 actes, mauvaise coupe. » Et tout en plaisantant avec lui-même, Chico n'en éprouvait pas moins un dernier frisson qui semblait faire jaillir un millier de pointes aiguës de la stalle de bois sur laquelle il se tenait assis. Cependant, frère Monsoreau descendait un des escaliers qui conduisait de la nef au cœur et venait ouvrir la porte de bronze donnant dans la crypte située dans les 2 escaliers. En même temps, le moine du milieu abaissait son capuchon et montrait la grande cicatrice, noble signe auquel les Parisiens reconnaissaient avec tant d'ivresse celui qui déjà passait pour le héros des catholiques en attendant qu'il devînt leur martyr. Le grand Henri de Guise en personne, le même que sa majesté très imbécile croit occuper au siège de la charité. « Ah, je comprends maintenant, s'écria Chico, celui qui est à sa droite et qui a béni les assistants, c'est le cardinal de Lorraine, tandis que celui qui était à sa gauche, qui parlait à ce myrmidon d'enfant de cœur, c'est Monseigneur de Mayenne, mon ami. Mais où donc dans tout cela est maître Nicolas David ?» En effet, comme pour donner immédiatement raison aux suppositions de Chico, le capuchon du moine de droite et le capuchon du moine de gauche s'étaient abaissés et avaient mis au jour la tête intelligente, le front large et l'œil perçant du fameux cardinal et le masque infiniment plus vulgaire du duc de Mayenne. « Ah, je te reconnais, dit Chico, trinité peu sainte mais très visible. Maintenant, voyons ce que tu vas faire. Je suis tout yeux. Voyons ce que tu vas dire. Je suis tout oreille. En ce moment même, Monsieur de Montsoreau était arrivé à la porte de fer de la crypte qui s'ouvrait devant lui. Aviez-vous cru qu'il viendrait? Demanda le balafré à son frère le cardinal. Non seulement je l'ai cru, dit celui-ci, mais j'en étais si sûr que j'ai sous ma robe tout ce qu'il faut pour remplacer la sainte ampoule. Et Chicot, assez près de la Trinité, comme il l'appelait, pour tout voir et pour tout entendre, aperçut, sous le faible reflet de la lampe du chœur, briller une boîte en vermeil, aux ciselures en relief. Tiens, dit Chicot, il paraît que l'on va sacrer quelqu'un. Moi qui ai toujours eu envie de voir un sacre, comme cela se rencontre. Pendant ce temps, une vingtaine de moines, la tête ensevelie sous d'immenses capuchons, sortaient par la porte de la crypte et se plaçaient dans la nef. Un seul, conduit par Monsieur de Montsoreau, montait l'escalier du chœur et venait se placer à la droite de Messieurs de Guise, dans une stalle du chœur, ou plutôt debout sur la marche de cette stalle. L'enfant de chœur qui avait reparu alla respectueusement prendre les ordres du moine de droite et disparut. Le duc de Guise promena son regard sur cette assemblée, des 5/6 moins nombreuses que la première et qui, par conséquent, était, selon toute probabilité, une assemblée d'élite, et s'étant assuré que non seulement tout ce monde l'écoutait, mais encore l'écoutait avec impatience. Ami, dit-il, le temps est précieux, je vais donc droit au but. Vous avez entendu tout à l'heure, car je présume que vous faisiez partie de la première assemblée, vous avez entendu tout à l'heure, dis-je, dans le rapport de quelques membres de la Ligue catholique, des plaintes de ceux de l'association qui taxent de froideur et même de malveillance un des principaux d'entre nous, le prince le plus rapproché du trône. Le moment est venu de rendre à ce prince ce que nous lui devons de respect et de justice. Vous allez l'entendre lui-même et vous jugerez, vous qui avez à cœur de remplir le premier but de la Sainte Ligue, si vos chefs méritent ces reproches de froideur et d'inertie faits tout à l'heure par un des frères de la Sainte Ligue que nous n'avons pas jugé à propos d'admettre dans notre secret par le moine Gorenflot. À ce nom prononcé par le duc de Guise avec un accent qui décelait ses mauvaises intentions envers le belliqueux Génovais fin, Chicot, dans son confessionnal, ne put s'empêcher de se livrer à une hilarité qui, pour être muette, n'en était pas moins déplacée, eu égard au grand personnage qui en était l'objet. Mes frères, continua le duc, le prince dont on nous avait promis le concours, le prince dont nous osions à peine espérer non pas la présence, mais le simple assentiment, mes frères, le prince est ici. Tous les regards se tournèrent curieusement sur le moine placé à droite des trois princes lorrains et qui se tenait debout sur le degré de sa stalle. Monseigneur, dit le duc de Guise en s'adressant à celui qui, pour le moment, était l'objet de l'attention générale, la volonté de Dieu me paraît manifeste, car puisque vous avez consenti à vous joindre à nous, c'est que nous faisons bien de faire ce que nous faisons. Maintenant, une prière, Altesse, abaissez votre capuchon, afin que vos fidèles voient par leurs propres yeux que vous tenez la promesse que nous leur avons faite en votre nom, promesse si flatteuse qu'ils n'osaient y croire. Le personnage mystérieux que Henri de Guise venait d'interpeller ainsi porta la main à son capuchon, qu'il rabattit sur ses épaules, et Chicot, qui s'était attendu à trouver sous ce froc quelque prince lorrain dont il n'avait pas encore entendu parler, vit avec étonnement apparaître la tête du duc d'Anjou. Si pâle qu'à la lueur de la lampe sépulcrale, elle semblait celle d'une statue de marbre. Oh, dit Chicot, notre frère d'Anjou, il ne se lassera donc pas de jouer au trône avec la tête des autres. Vive Monseigneur le duc d'Anjou! crièrent tous les assistants. François devint plus pâle encore qu'il n'était. Ne craignez rien, Monseigneur, dit Henri de Guise, cette chapelle est sourde et les portes en sont bien fermées. Heureuse précaution, se dit Chicot. Mes frères, dit le comte de Montsoreau, son Altesse demande à adresser quelques mots à l'assemblée. Oui, qu'elle parle! S'écrièrent toutes les voix. Nous écoutons. Les trois princes lorrains se retournèrent vers le duc d'Anjou et s'inclinèrent devant lui. Le duc d'Anjou s'appuya au bras de la stalle, on eût dit qu'il allait tomber. Messieurs, dit-il d'une voix si sourdement tremblante qu'à peine put-on entendre les paroles qu'il prononça d'abord, messieurs, je crois que Dieu, qui souvent paraît insensible et sourd aux choses de ce monde, tient au contraire ses yeux perçants, constamment fixés sur nous, et ne reste ainsi muet et insouciant en apparence que pour remédier un jour, par quelque coup d'éclat, au désordre que causent les folles ambitions des humains. Le commencement du discours du duc était, comme son caractère, passablement ténébreux. Aussi chacun attendit-il qu'un peu de lumière descendît sur les pensées de son Altesse pour les blâmer ou les applaudir. Le roi reprit d'une voix un peu plus assurée. Moi aussi j'ai jeté les yeux sur ce monde, et ne pouvant embrasser toute sa surface de mon faible regard, j'ai arrêté mes yeux sur la France. Qu'ai-je vu alors dans tout ce saint royaume? La sainte religion du Christ ébranlée sur ses bases augustes, et les vrais serviteurs de Dieu épars et proscrits. Alors j'ai sondé les profondeurs de l'abîme ouvert depuis 20 ans par les hérésies qui sapent les croyances sous prétexte d'atteindre plus sûrement à Dieu, et mon âme, comme celle du prophète, a été inondée de douleur. Un murmure d'approbation courut dans l'assemblée. Le duc venait de manifester sa sympathie pour les souffrances de l'Église, ce qui était presque déjà une déclaration de guerre à ceux qui faisaient souffrir cette Église. Ce fut au milieu de cette affliction profonde, continua le prince, que le bruit vint à moi que plusieurs nobles gentilshommes, pieux et amis des coutumes de nos ancêtres, essayaient de consolider l'autel ébranlé. J'ai jeté les yeux autour de moi, et il m'a semblé que j'assistais déjà au jugement suprême, et que Dieu avait séparé en deux corps les réprouvés et les élus. D'un côté étaient ceux-là, et je me suis reculé avec horreur. De l'autre côté étaient les élus, et je suis venu me jeter dans leurs bras. Mes frères, me voici. Amen, dit tout bas Chicot. Mais c'était une précaution inutile. Chicot eût pu répondre tout haut, et sa voix n'eût pas été entendue au milieu des applaudissements et des bravos qui s'élevèrent jusqu'aux voûtes de la chapelle. Les trois princes lorrains, après en avoir donné le signal, les laissèrent se calmer. Puis le cardinal, qui était le plus rapproché du duc, faisant encore un pas dans son côté, lui dit « Vous êtes venu de votre plein gré parmi nous, prince. »« De mon plein gré, messieurs. » « Qui vous a instruit du saint mystère ?»« Mon ami, un homme zélé pour la religion, monsieur le comte de Montsoreau. » « Maintenant, dit à son tour le duc de Guise, maintenant que votre Altesse est des nôtres, veuillez, monseigneur, avoir la bonté de nous dire ce que vous comptez faire pour le bien de la Sainte Église. » « Je compte servir la religion catholique, apostolique et romaine dans toutes ses exigences, répondit le néophyte. « Ventre de biche, dit Chicot, voilà sur mon âme des gens bien niais de se cacher pour dire de telles choses. Que ne propose-t-il tout bonnement cela au roi Henri III, mon illustre maître? Tout cela lui irait à merveille. Procession, macération, extirpation d'hérésie comme à Rome, fagot et autodafé comme en Flandre et en Espagne, mais c'est le seul moyen de lui faire avoir des enfants, à ce bon prince. Corbus, j'ai envie de sortir de mon confessionnal et de me présenter à mon tour, tant ce cher duc d'Anjou m'a touché. Continue, digne frère de sa majesté, noble imbécile, continue. » Et le duc d'Anjou, comme s'il eût été sensible à l'encouragement, continua, en effet. « Mais, dit-il, l'intérêt de la religion n'est pas le seul but que des gentilshommes doivent se proposer. Quant à moi, j'en ai entrevu un autre. »« Ouais, Fichico, je suis gentilhomme aussi, cela m'intéresse donc comme les autres. Parle, d'Anjou, parle. » « Monseigneur, on écoute votre Altesse avec la plus sérieuse attention, » dit le cardinal de Guise. « Et nos cœurs battent d'espérance en vous écoutant, » dit monsieur de Mayenne. « Je m'expliquerai donc, » dit le duc d'Anjou, en sondant de son regard inquiet les profondeurs ténébreuses de la chapelle, comme pour s'assurer que ses paroles ne tomberaient qu'en oreilles dignes de recevoir la confidence. Monsieur de Montsoreau comprit l'inquiétude du prince et le rassura par un sourire et par un clin d'œil des plus communicatifs. Or, quand un gentilhomme a pensé à ce qu'il doit à Dieu, continua le duc d'Anjou, en baissant involontairement la voix, il pense alors à son, par Dieu, à son roi, souffla Chicot, c'est connu, à son pays, dit le duc d'Anjou, et il se demande si son pays jouit bien réellement de tout l'honneur et de tout le bien-être qu'il était destiné d'avoir en partage. Car un bon gentilhomme tire ses avantages de Dieu d'abord et ensuite du pays dont il est l'enfant. L'assemblée applaudit violemment. Eh bien, mais, dit Chicot, et le roi, il n'en est plus question de ce pauvre monarque, et moi qui croyais, comme c'était écrit sur la pyramide de Juvisy, qu'on disait toujours Dieu, le roi et les dames. Je me demande donc, continua le duc d'Anjou, dont les pommettes saillantes s'animaient peu à peu d'une rougeur fébrile, je me demande donc si mon pays jouit de la paix et du bonheur que mérite cette patrie si belle et si douce qu'on appelle la France, et je vois avec douleur qu'il n'en est rien. En effet, mes frères, l'État se trouve tiraillé par des volontés et des goûts différents, tous aussi puissants les uns que les autres. Grâce à la faiblesse d'une volonté supérieure, laquelle, oubliant qu'elle doit tout dominer pour le bien de ses sujets, ne se souvient de ce principe royal que par capricieux intervalles, et toujours si à contresens que ses actes énergiques n'ont lieu que pour faire le mal. Et c'est sans nul doute à la fatale destinée de la France, ou à l'aveuglement de son chef, qu'il faut attribuer ce malheur. Mais quoique nous en ignorions la vraie source, ou que nous ne fassions que la soupçonner, le malheur n'en est pas moins réel, et j'en accuse, moi, ou les crimes commis par la France contre la religion, ou les impiétés commises par certains faux amis du roi, plutôt que par le roi lui-même, ce qui fait, monsieur, que dans l'un ou l'autre cas, j'ai dû, en serviteur de l'autel et du trône, me rallier à ceux qui, par tous les moyens, cherchent l'extinction de l'hérésie et la ruine des conseillers perfides. Voilà, messieurs, ce que je veux faire pour la Ligue en m'y associant avec vous. Oh, oh, murmura Chicot, avec des yeux tout ébahis de surprise. Voilà un bout de l'oreille qui passe, et comme je l'avais cru d'abord, ce n'est point une oreille d'âne, mais de renard. Cet exorde du duc d'Anjou, qui peut-être a paru un peu long à nos lecteurs, séparés qu'ils sont par 3 siècles de la politique de cette époque, avait tellement intéressé les assistants que la plupart s'étaient rapprochés du prince pour ne point perdre une syllabe de ce discours prononcé avec une voix de plus en plus obscure à mesure que le sens des paroles devenait de plus en plus clair. Le spectacle était alors curieux. Les assistants, au nombre de 25 ou 30, le capuchon en arrière, laissaient voir des figures nobles, hardies, éveillées, étincelantes de curiosité, et se groupaient sous la lueur de la seule lampe qui éclairait alors la scène. De grandes ombres se répandaient dans toutes les autres parties de l'édifice, qui semblaient pour ainsi dire étrangères au drame qui se passait sur un seul point. Au milieu du groupe, on distinguait la figure pâle du duc d'Anjou, dont les os frontaux cachaient les yeux enfoncés, et dont la bouche, quand elle s'ouvrait, semblait le rictus sinistre d'une tête de mort. Monseigneur, dit le duc de Guise, en remerciant votre Altesse des paroles qu'elle vient de prononcer, je crois devoir l'avertir qu'elle n'est entourée que d'hommes dévoués, non seulement au principe qu'elle vient de professer, mais encore à la personne de son Altesse royale elle-même, et c'est ce dont, si elle en doutait, la suite de la séance pourrait la convaincre plus énergiquement qu'elle ne le pense elle-même. Le duc d'Anjou s'inclina, et se relevant, jeta un regard inquiet sur l'assemblée. Oh, murmura Chicot, ou je me trompe, ou tout ce que nous avons vu jusqu'à présent n'était qu'un préambule, et quelque chose va se passer ici de plus important que toutes les fadaises qu'on a faites et dites jusqu'à présent. Monseigneur, dit le cardinal, auquel le regard du prince n'avait point échappé, si votre Altesse éprouvait par hasard quelque crainte, les noms seuls de ceux qui l'entourent en ce moment la rassureraient, je l'espère. Voici monsieur le gouverneur d'Aunis, monsieur d'Entragues le jeune, monsieur de Ribérac et monsieur de Livarot, gentilshommes que votre Altesse connaît peut-être et qui sont aussi braves que loyaux. Voici encore monsieur le vidame de Castillon, monsieur le baron de Lusignan, messieurs Crus et Leclerc, tous pénétrés de la sagesse de votre Altesse royale et heureux de marcher sous ses auspices à l'émancipation de la Sainte Religion et du trône. Nous recevrons donc avec reconnaissance les ordres qu'elle voudra bien nous donner. » Le duc d'Anjou ne put dissimuler un mouvement d'orgueil. Ses guises, si fières qu'on n'avait jamais pu les plier, parlaient d'obéir. Le duc de Mayenne reprit. « Vous êtes, par votre naissance, par votre sagesse, monseigneur, le chef naturel de la Sainte Union, et nous devons apprendre de vous quelle est la conduite à tenir à l'égard de ces faux amis du roi dont nous parlions tout à l'heure. » « Rien de plus simple, répondit le prince, avec cette espèce d'exaltation fébrile qui tient lieu de courage aux hommes faibles. Quand des plantes parasites et vénéneuses croissent dans un champ, dont sans elles l'on tirerait une riche moisson, il faut déraciner ces herbes dangereuses. Le roi est entouré, non pas d'amis, mais de courtisans qui le perdent et qui excitent un scandale continuel dans la France et dans la chrétienté. « C'est vrai, dit le duc de Guise d'une voix sombre. Et d'ailleurs ces courtisans, reprit le cardinal, nous empêchent, nous, les véritables amis de sa majesté, d'arriver jusqu'à elle, comme c'est le droit de nos charges et de nos naissances. Laissons donc, dit brusquement le duc de Mayenne, aux ligueurs vulgaires, à ceux de la première ligue, le soin de servir Dieu. En servant Dieu, ils serviront ceux qui leur parlent de Dieu. Nous faisons nos affaires. Des hommes nous gênent, ils nous bravent, ils nous insultent. Ils manquent continuellement de respect au prince que nous honorons le plus et qui est notre chef. » Le front du duc d'Anjou se couvrit de rougeur. « Détruisons, continua Mayenne, détruisons jusqu'au dernier cette engeance maudite que le roi enrichit des lambeaux de nos fortunes et que chacun de nous s'engage à en retrancher un seul de la vie. Nous sommes 30 ici, comptons-les. » « C'est pensé sagement, dit le duc d'Anjou, et vous avez déjà fait votre tâche, monsieur de Mayenne. »« Ce qui est fait ne compte pas, dit le duc. » « Il faut cependant nous en laisser, monseigneur, dit d'Entragues. Moi, je me charge de Caylus. » « Moi, de Maugiron, dit Livaro. » « Et moi, de Schomberg, dit Ribérac. » « Bien, bien, répétait le duc, nous avons encore Bussy, mon brave Bussy, qui se chargera bien de quelques-uns. »« et nous !» crièrent tous les ligueurs. Monsieur de Montsoreau s'avança. Ah, dit Chicot, qui, en voyant la tournure que prenaient les choses, ne riait plus. Voici le grand veneur qui vient réclamer sa part de curé. Chicot se trompait. Messieurs, dit-il, en étendant la main, je réclame un instant de silence. Nous sommes des hommes résolus, et nous avons peur de nous parler franchement les uns aux autres. Nous sommes des hommes intelligents et nous tournons autour de niais scrupules. Allons, messieurs, un peu de courage, un peu de hardiesse, un peu de franchise. Ce n'est pas des mignons du roi Henri qu'il s'agit, ce n'est pas de la difficulté que nous éprouvons à nous approcher de sa personne. « Allons donc, disait Chicot, écarquillant les yeux au fond de son confessionnal, et se faisant un entonnoir acoustique de sa main gauche pour ne pas perdre un mot de ce qu'on disait. « Allons donc, hâte-toi, j'attends. » « Ce qui nous occupe tous, mes seigneurs, reprit le comte, c'est l'impossibilité devant laquelle nous sommes acculés. C'est la royauté que l'on nous donne et qui n'est pas acceptable pour une noblesse française. » Des litanies, du despotisme, de l'impuissante et des orgies, la prodigalité pour des fêtes qui font rire de pitié toute l'Europe, la parcimonie pour tout ce qui regarde la guerre et les arts. Ce n'est pas de l'ignorance, ce n'est pas de la faiblesse, une conduite pareille, messieurs, c'est de la démence. » Un silence funèbre accueillit les paroles du grand veneur. L'impression était d'autant plus profonde que chacun se disait tout bas ce qu'il venait d'entendre tout haut, de sorte que chacun tressaillit comme à l'écho de sa propre voix et frissonna en songeant qu'il était en tout point de l'avis de l'orateur. Monsieur de Montsoreau, qui sentait bien que ce silence ne venait que d'un excès d'approbation, continua. « Devons-nous vivre sous un roi fou, inerte et fainéant, au moment où l'Espagne allume les bûchers, au moment où l'Allemagne réveille les vieux hérésiarques assoupis dans l'ombre des cloîtres, quand l'Angleterre, dans son inflexible politique, tranche les idées et les têtes, toutes les nations travaillent glorieusement à quelque chose. Nous dormons. Monsieur, pardonnez-moi de le dire, devant un grand prince qui blâmera peut-être ma témérité, car il a le préjugé de la famille. Messieurs, depuis 4 ans, nous ne sommes plus gouvernés par un roi, mais par un moine. À ces mots, l'explosion, habilement préparée et habilement contenue depuis 1 heure par la circonspection des chefs, éclata si violemment que nul n'eût reconnu dans ces énergumènes ces froids et sages calculateurs de la scène précédente. « Ah bah Valois » cria-t-on, « Ah bah frère Henri !» Donnons-nous pour chef un prince gentilhomme, un roi chevalier, un tyran s'il le faut, mais pas un frocard. Monsieur, monsieur, dit hypocritement le duc d'Anjou, pardon, je vous en conjure, pour mon frère qui se trompe, ou plutôt qui s'est trompé, laissez-moi espérer, messieurs, que nos sages remontrances, que l'efficace intervention du pouvoir de la Ligue le ramèneront dans la bonne voie. Siffle, serpent, dit Chicot, siffle. « Monseigneur, répondit le duc de Guise, votre Altesse a entendu peut-être un peu tôt, mais enfin elle a entendu l'expression sincère de la pensée de l'association. Non, il ne s'agit plus ici d'une ligue contre le Béarnais, épouvantail des imbéciles. Il ne s'agit plus d'une ligue pour soutenir l'Église, qui se soutiendra bien elle-même. Il s'agit, messieurs, de tirer la noblesse de France de la position abjecte où elle se trouve. » Trop longtemps, nous avons été retenus par le respect que votre Altesse nous inspire. Trop longtemps, cet amour que nous lui connaissons pour sa famille nous a renfermés violemment dans les bornes de la dissimulation. Maintenant, tout est révélé, monseigneur, et votre Altesse va assister à la véritable séance de la Ligue, dont ce qui vient de se passer n'est que le préambule. « Que voulez-vous dire, monsieur le duc ?» demanda le prince, palpitant tout à la fois d'inquiétude et d'ambition. « Monseigneur, nous nous sommes réunis, continua le duc de Guise, non pas, comme l'a dit judicieusement monsieur le grand veneur, pour rebattre des questions usées en théorie, mais pour agir efficacement. Aujourd'hui, nous nous choisissons un chef capable d'honorer et d'enrichir la noblesse de France. » Et comme c'était la coutume des anciens francs, lorsqu'ils se donnaient un chef, de lui donner un présent digne de lui, nous offrons un présent au chef que nous nous sommes choisis. Tous les cœurs battirent, mais moins fort que celui du duc. Cependant, il resta muet et immobile, et sa pâleur seule trahit son émotion. « Messieurs, continua le duc en saisissant dans la stalle placée derrière lui un objet assez lourd qu'il éleva entre ses mains, « Messieurs, voici le présent qu'en votre nom à tous, je dépose aux pieds du prince. »« Une couronne ?» s'écria le duc, se soutenant à peine. « Une couronne à moi, messieurs ?»« Vive François III !» s'écria d'une voix qui fit trembler la voûte la troupe compacte des gentilshommes qui avaient tiré leurs épées. « Moi, moi ?» balbutiait le duc, tremblant à la fois de joie et de terreur. « Mais... « C'est impossible, mon frère vit encore, mon frère est loin du Seigneur. »« Nous le déposons, dit le duc, en attendant que Dieu sanctionne par sa mort l'élection que nous venons de faire, ou plutôt en attendant que quelqu'un de ses sujets, lassé de ce règne sans gloire, prévienne par le poison ou le poignard la justice de Dieu. »« Monsieur, dit plus faiblement le duc, messieurs, « Monseigneur, dit à son tour le cardinal, aux scrupules si nobles que votre Altesse vient d'exprimer tout à l'heure, voici notre réponse. Henri III était loin du Seigneur, mais nous l'avons déposé. Il n'est plus l'élu de Dieu, et c'est vous qui allez l'être, Monseigneur. Voici un temple aussi vénérable que celui de Reims. » Car ici ont reposé les reliques de Sainte Geneviève, patronne de Paris. Ici a été inhumé le corps de Clovis, premier roi chrétien. Eh bien, monseigneur, dans ce temple saint, en face de la statue du véritable fondateur de la monarchie française, moi, l'un des premiers princes de l'Église et qui, sans ambition folle, puis espérer un jour en devenir le chef, je vous dis, monseigneur, voici, pour remplacer le Saint-Crème, une huile sainte envoyée par le pape Grégoire XIII. Monseigneur, nommez votre futur archevêque de Reims, nommez votre connétable, et dans un instant, c'est vous qui serait sacré roi, et c'est votre frère Henri qui, s'il ne vous remet pas le trône, sera considéré comme un usurpateur. Enfant, allumez les flambeaux de l'autel. Au même instant, l'enfant de chœur, qui n'attendait évidemment que cet ordre, déboucha de la sacristie, un allumoir à la main, et en un instant, 50 flambeaux étincelèrent, tant sur l'autel que dans le chœur. On vit alors sur l'autel une mitre resplendissante de pierreries et une large épée fleurdelysée. C'était la mitre archiépiscopale, c'était l'épée de Connétable. Au même instant, au milieu des ténèbres que n'avait pu dissiper l'illumination du chœur, l'orgue s'éveilla et fit entendre le Veni Creator. Cette espèce de péripétie, ménagée par les trois princes lorrains et à laquelle le duc d'Anjou lui-même ne s'attendait point, produisit une impression profonde sur les assistants. Les courageux s'exaltèrent et les faibles même se sentirent forts. Le duc d'Anjou releva la tête et, d'un pas plus assuré et d'un bras plus ferme qu'on aurait pu s'y attendre, il marcha droit à l'autel, prit de la main gauche la mitre et de la main droite l'épée, et revenant vers le duc et vers le cardinal, qui s'attendait d'avance à ce double honneur, il mit la mitre sous la tête du cardinal et ceignit l'épée au duc. Des applaudissements unanimes saluèrent cette action décisive, d'autant moins attendue que l'on connaissait le caractère irrésolu du prince. « Messieurs, dit le duc aux assistants, donnez vos noms à monsieur le duc de Mayenne, grand maître de France. Le jour où je serai roi, vous serez tous chevaliers de l'ordre. » Les applaudissements redoublèrent, et tous les assistants vinrent l'un après l'autre donner leur nom à monsieur de Mayenne. « Mordieu, dit Chicot, la belle occasion d'avoir le cordon bleu, je n'en retrouverai jamais une pareille, et dire qu'il faut que je m'en prive. » « Maintenant, à l'hôtel, sire, » dit le cardinal de Guise. « Monsieur de Montsoreau, mon capitaine-colonel, messieurs de Ribérac et d'Entragues, mes capitaines, monsieur de Livarot, mon lieutenant des gardes, prenez dans le cœur les places auxquelles le rang que je vous confie vous donne droit. » Chacun de ceux qui venaient d'être nommés alla prendre le poste que, dans une véritable cérémonie de sacre, l'étiquette leur eut assignée. « Messieurs, dit le duc en s'adressant au reste de l'assemblée, vous m'adresserez à tous une demande et je tâcherai de ne point faire un seul mécontent. » Pendant ce temps, le cardinal était passé derrière le tabernacle et avait revêtu les ornements pontificaux. Bientôt il reparut avec la sainte ampoule qu'il déposa sur l'autel. Alors il fit un signe à l'enfant de chœur qui apporta le livre des évangiles et la croix. Le cardinal prit l'un et l'autre, posa la croix sur le livre des évangiles et les étendit vers le duc d'Anjou, qui mit la main dessus. « En présence de Dieu, dit le duc, je promets à mon peuple de maintenir et d'honorer notre sainte religion, comme il appartient au roi très chrétien et au fils aîné de l'Église, et qu'ainsi Dieu me soit en aide et ses saints évangiles. »« Amen !» répondirent d'une seule voix tous les assistants. « Amen !» reprit une espèce d'écho qui semblait venir des profondeurs de l'église. Le duc de Guise, faisant, comme nous l'avons dit, les fonctions de connétable, monta les trois marches de l'autel et, en avant du tabernacle, déposa son épée que le cardinal bénit. Le cardinal alors la tira du fourreau et, la prenant par la lame, la présenta au roi, qui la prit par la poignée. « Sire, dit-il, prenez cette épée qui vous est donnée avec la bénédiction du Seigneur, afin que, par elle et par la force de l'Esprit-Saint, vous puissiez résister à tous vos ennemis, protéger et défendre la Sainte Église et le royaume qui vous est confié. Prenez cette épée, afin que, par son secours, vous exerciez la justice, vous protégiez les veuves et les orphelins, vous répariez les désordres. » afin que, vous couvrant de gloire par toutes les vertus, vous méritiez de gagner avec celui dont vous êtes l'image sur la terre et qui règne avec le Père et le Saint-Esprit dans les siècles des siècles. » Le duc baissa l'épée de manière que la pointe toucha le sol et, après l'avoir offerte à Dieu, la rendit au duc de Guise. L'enfant de cœur apporta un coussin qu'il déposa devant le duc d'Anjou qui s'agenouilla. Puis le cardinal ouvrit le petit coffret de vermeil, et avec la pointe d'une aiguille d'or, il en tira une parcelle d'huile sainte qu'il étendit sur la patène. Alors, la patène à la main gauche, il dit sur le duc deux oraisons, puis, prenant le Saint-Crème avec le pouce, il traça une croix sur le sommet de la tête du duc en disant, gote in regem Deoleo sanctificato in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. » Presque aussitôt, l'enfant de cœur essuya l'onction avec un mouchoir brodé d'or. À ce moment, le cardinal prit la couronne à deux mains et la baissa vers la tête du prince, mais sans la poser. Aussitôt, le duc de Guise et le duc de Mayenne s'approchèrent et de chaque côté soutinrent la couronne. Enfin, le cardinal, ne la soutenant plus que de la main gauche, dit en bénissant le prince de la main droite, « Dieu te couronne de la couronne de gloire et de justice. » Puis, la posant sur la tête du prince, « Reçois cette couronne, dit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Le duc d'Anjou, blême et frissonnant, sentit la couronne se poser sur sa tête et instinctivement y porta la main. La sonnette de l'enfant de cœur retentit alors et fit courber le front de tous les assistants. Mais ils se relevèrent bientôt, brandissant les épées et criant « Vive le roi François III !»« Sire, dit le cardinal au duc d'Anjou, vous régnez dès aujourd'hui sur la France, car vous êtes sacré par le pape Grégoire XIII lui-même, dont je suis le représentant. » « Ventre de biche, dit Chicot, quel malheur que je n'ai pas les écrouelles !»« Messieurs, dit le duc d'Anjou, se relevant, fier et majestueux, je n'oublierai jamais les noms des 30 gentilshommes qui m'ont les premiers juré dignes de régner sur eux. Et maintenant, adieu, messieurs, que Dieu vous ait en sa sainte et digne garde !» Le cardinal s'inclina, ainsi que le duc de Guise, mais Chicot, qui les voyait de côté, s'aperçut que, tandis que le duc de Mayenne reconduisait le nouveau roi, les deux princes lorrains échangeaient un ironique sourire. « Ouais, dit le Gascon, qu'est-ce que cela signifie encore, et à quoi sert le jeu si tout le monde triche ?» Pendant ce temps, le duc d'Anjou avait regagné l'escalier de la crypte, et bientôt il disparut dans les ténèbres de l'église souterraine, où, l'un après l'autre, tous les assistants le suivirent, à l'exception des trois frères qui entrèrent dans la sacristie, tandis que le frère portier éteignait les cierges de l'autel. L'enfant de cœur referma la crypte derrière eux, et l'église se trouva éclairée par cette lampe qui, seule inextinguible, semblait un symbole inconnu du vulgaire et parlant seulement aux élus de quelque mystérieuse initiation.